Bien, nous allons ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, et relire ces versets sur lesquels nous sommes déjà penchés, Romains chapitre 3, les versets 21 à 26. C'est sur la page 1127 de la version autorisée.
C'est la version que tu as, c'est 1127.
Romains chapitre 3, donc c'est verset, à partir du verset 21. Et l'apôtre Paul écrit ceci: mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et jusque-là, la parole de Dieu. On revient donc sur ce passage merveilleux, ce résumé de l'Évangile. On a déjà dit que le salut, la justification est par la foi seule. Que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ce que nous pouvons faire, nous n'avons aucun mérite, c'est par la foi que ce salut, cette justification nous est donnée en Christ seul. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le fait que ce salut est par la grâce seule, par la grâce de Dieu. Nous avons déjà vu qu'au début de cette lettre, Paul a ramené toute l'humanité devant le trône de Dieu, afin que toute bouche soit fermée. Il a insisté sur le fait qu'il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Que ce soit des personnes d'origine païenne ou que ce soit des personnes d'origine juive qui ont reçu la révélation de Dieu. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous sont coupables, tous sont pécheurs. C'est le cas de toute personne, les Juifs inclus, même ceux qui ont reçu les ombres de la réalité, même ceux qui ont reçu les promesses, eux aussi sont coupables devant Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là, et nous avons vu que début de ce passage, début de ce verset que nous venons de lire, que ce passage commence avec cette merveilleuse expression « mais maintenant ». Il y a cette condition terrible de l'humanité, pécheur, coupable devant Dieu. Mais maintenant, voici une bonne nouvelle. Voici l'Évangile. Dieu a accompli ses promesses. Et il nous a donné son Fils, Jésus-Christ, pour sauveur. Paul a souligné qu'effectivement, notre situation, elle est terrible. Nous avons désobéi, nous avons enfreint la loi de Dieu. Mais pire que cela, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement éloignés de Dieu, mais que toute notre vie a été défigurée par le péché. Dieu nous a créés à son image, mais nous avons cassé cette image par notre péché. Et nous avons besoin de cette justice de Dieu qui sauve. Nous avons besoin de cette justice de Dieu qui régénère. Et Dieu nous la donne par la foi en Jésus-Christ. En Christ, nous avons cette justification, nous avons cette rédemption, nous avons cette propitiation. Il est le Seigneur Jésus-Christ, ce propitiatoire que Dieu a prévu depuis toujours. Celui sur qui il allait déverser sa colère, à la place de la déverser sur ceux qui croient en lui, afin que ceux qui croient en lui soient d'une part pardonnés, mais que Dieu soit aussi juste et que sa justice soit satisfaite. Et au milieu de ce passage, Paul souligne au verset 24 que cela est par grâce. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et si ce passage est un résumé et le cœur de l'Évangile, ici nous avons le cœur de Dieu qui se révèle. Pourquoi est-ce que nous avons cette bonne nouvelle du salut? À cause de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est-il venu dans ce monde? À cause de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus est mort comme la victime propitiatoire? À cause de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons entendu l'Évangile? À cause de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons cette foi en Jésus-Christ? À cause de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons cette glorieuse espérance qu'un jour nous serons avec lui dans la vie éternelle, dans sa gloire? À cause de la grâce de Dieu. Le chrétien se réjouit, il aime ce terme de grâce et il le chante parce que tout son être est touché par cette réalité, cela remplit son cœur et il ne cesse de le chanter. Je pensais à ce cantique « Wonderful Grace of Jesus » qui a été traduit en français. Il n'est pas dans nos recueils, malheureusement. Mais les paroles vont ainsi. « Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur? Qui donc a pu dire quelle est sa profondeur ?» Le refrain « Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs, plus touchant que l'hymne des archanges et le chant qu'entonnent les élus. » Venez, chrétiens, qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, qui nous environne quand rôde le malheur, elle en rompt nos chaînes et couvre nos forfaits, que Satan se démène, nous demeurons en paix. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert, par ce courant de vie nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Il y a d'autres cantiques, on pense à ce cantique « Amazing Grace » que je pense nous connaissons tous, « Grâce merveilleuse, grâce incroyable », cantique de John Newton. Mais le problème, c'est que trop souvent, le croyant ne vit pas comme celui qui a découvert que cette grâce était merveilleuse, que cette grâce était incroyable. Trop souvent, on reconnaît, oui, que nous sommes sauvés par grâce, que nous avons besoin de cette grâce. Mais pour une raison ou une autre, cette grâce a cessé d'être incroyable, d'être merveilleuse à nos yeux. Et la raison la plus courante, c'est que nous cherchons à trouver notre position devant Dieu, en partie dans la grâce de Dieu et en partie en nous-mêmes. Et on fait un cocktail, un mélange le fruit de notre travail, de notre marche avec le Seigneur, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a accompli, du chemin que nous avons parcouru, de la position que nous avons dans l'Église. Et on mélange, on fait ce cocktail, et quand on le boit, la nature incroyable de la grâce de Dieu en Jésus-Christ disparaît. Et beaucoup de chrétiens se contentent d'une vie où la grâce n'est plus merveilleuse, n'est plus incroyable. La vie chrétienne devient ordinaire au lieu d'être extraordinaire. L'amour pour les frères et sœurs diminue, la joie dans le Seigneur disparaît, parce qu'on a minimisé la nature incroyable, merveilleuse de cette grâce de Dieu en Jésus-Christ. Parfois, on parle des doctrines de la grâce, mais beaucoup de personnes peuvent décrire ces doctrines de la grâce, mais quand elles le font, On se demande où est la grâce dans leur doctrine. C'est une chose de les connaître, c'est une autre de les vivre. Alors comment est-ce que Paul nous fait voir que nous avons un évangile d'une grâce merveilleuse, d'une grâce incroyable? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle d'être justifié par la grâce, par sa grâce, la grâce de Dieu seul? Tout d'abord, cette justification, elle est sans la loi. Être justifié par la grâce de Dieu, c'est être justifié sans la loi. Verset 21, Paul parle de cette justice qui nous déclare juste et que nous recevons par la foi. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Ce que Paul dit ici, c'est que je ne pourrai jamais accomplir ma justification par mes œuvres, par mon obéissance à la loi. Le chemin de la loi, c'est quoi? Il y a le commandement auquel je dois obéir. Et sur cette base, je me présente devant Dieu et je lui dis, étant donné que j'ai obéi à ce commandement, à cette loi, je suis déclaré juste. Mais Paul, je l'ai dit, a insisté au début de cette lettre aux Romains, dans ses premiers trois chapitres, que personne ne peut être justifié par la loi. Personne ne peut accomplir les exigences de la loi, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Tous les travaux de mes mains, dit un cantique, seraient pour te plaire, seraient vains. Mais combien de fois est-ce que nous avons pensé que nous pouvions nous justifier devant Dieu par nos œuvres? C'est important de souligner cela. Et Paul le sait, il ne cesse de revenir. Il sait que cela va au plus profond de notre être. En fait, Paul est en train de poser le fondement pour son argumentation plus tard. Plus tard, il dira que le seul moyen pour que quelqu'un soit sauvé, c'est que Dieu l'ait souverainement choisi, qu'il l'ait élu depuis toute éternité. Et pour beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, cette affirmation est une offense. Et elles sont offensées parce que, au fond du cœur, il y a cette notion que Dieu les sauve parce qu'il y a un petit peu de bien au fond du cœur. Mais l'évangile de la grâce de Dieu veut aller au plus profond et enlever toutes ces erreurs, laver à la fois notre esprit, notre cœur, nos émotions de toutes ces erreurs et de nous faire voir la grâce merveilleuse, la grâce incroyable de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a rien en moi qui ait attiré Dieu. Il n'y a rien en moi qui ait poussé Dieu à m'aimer. Ce n'est que par sa grâce qu'il m'a aimé en Jésus-Christ. Ce n'est que par sa grâce qu'il m'a sauvé. Je ne sais pas si vous avez lu le Voyage du pèlerin de John Bunyan, mais je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas fait, ou à le relire pour ceux qui l'ont déjà lu. Et au chapitre 15, un des personnages fidèles, qui est un compagnon de Chrétien, lui raconte une expérience qu'il a eue dans la montée du coteau des difficultés. Fidèle rencontre un vieillard qui se prénomme le premier Adam et qui vit dans la ville de Séduction. Déjà quelques indices. Et Fidèle écoute ce vieillard, et il est même sur le point de se laisser séduire et de quitter le chemin de la foi pour vivre une vie morale. Et la morale serait la base de son acceptation devant Dieu. Mais Fidèle comprend qu'il faut se dépouiller du premier Adam. Il cherche à s'enfuir, mais il est rattrapé. Et voici ce qu'il dit. « Cet homme ne m'eut pas plutôt atteint qu'il me renversa par terre d'un coup de bâton et je restais comme mort. » Et un peu plus loin, il dit, « Mais ayant repris un peu de force, je m'écriais, « Ayez un peu de miséricorde, Je ne sais, répondit-il, ce que c'est la miséricorde. Et Chrétien va expliquer à Fidèle, cet homme qui fondit sur vous, c'était Moïse. Il n'épargne personne et il ne sait ce que c'est de montrer de la compassion à ceux qui violent sa loi. Quand un croyant trébuche et pense que Dieu lui manifeste sa grâce parce qu'il y a quelque chose de bon en lui, ou parce qu'il a fait quelque chose de bien, il n'y a que peu de temps avant que Moïse ne vienne avec la loi pour le frapper d'un coup terrible parce qu'il a violé la loi. Et seule la venue de celui qui a les mains percées peut le secourir. Et ça, c'est l'expérience de Fidèle qui le décrit dans ce chapitre un peu plus loin. C'est l'expérience de chaque croyant. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi qui peut sauver. Ce n'est pas les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres de nos mains. C'est la seule grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est par cette seule grâce que nous sommes sauvés. La justification est par la grâce seule, sans la loi. Et pourtant, Paul le souligne, la loi et les prophètes rendent témoignage que c'est ainsi que nous sommes justifiés devant Dieu. Que c'est de cette manière que nous sommes justifiés devant Dieu. Et d'une certaine manière, même lorsque le Seigneur, même lorsque Dieu a donné ses commandements au peuple d'Israël, il n'a pas simplement donné ses commandements en leur disant, voilà, débrouillez-vous. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est révélé comme ce Dieu de grâce qui a aimé un peuple, qui a aimé ce peuple, qui l'a délivré, qui l'a racheté de l'esclavage en Égypte. Et qu'il l'appelait maintenant à le suivre. La justification devant Dieu, c'est par grâce. Alors cette idée peut rendre certaines personnes nerveuses. Est-ce que cela veut dire qu'on peut vivre n'importe comment? Et Paul va répondre à cette question plus tard. Donc il faudra patienter. Mais ici, le premier point donc, que Paul veut souligner, très important, c'est que la justification, le fait d'être déclaré juste devant Dieu, ce n'est pas par la loi, c'est sans la loi. C'est par grâce. La deuxième chose que Paul souligne, c'est que la justification, le fait d'être déclaré juste devant Dieu, est un don gratuit. Dieu ne manifeste pas sa grâce parce que Christ est mort pour moi. Non, Christ est mort pour moi parce que Dieu m'a manifesté sa grâce. Si je pense que Dieu me manifeste sa grâce parce que Christ est mort pour moi, alors je vais penser que ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix était une œuvre pour persuader son père réticent de manifester sa grâce envers un terrible pécheur. Mais Dieu ne m'aime pas parce que Christ est mort pour moi. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu ne commence pas à la croix. En fait, elle arrive à sa pleine réalisation à la croix de Christ. Ce n'est que grâce à l'amour de Dieu le Père pour le peuple du Seigneur Jésus-Christ que le Père a envoyé son Fils dans le monde. Et cette grâce touche toute la Trinité, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au Fils, c'est la disposition d'un Dieu souverain. Dans sa miséricorde infinie envers des pécheurs, il manifeste sa grâce envers nous. À cause de cette grâce, il envoie son Fils mourir pour nous sur la croix. Cette grâce n'est pas quelque chose que le Père donnerait au Fils et que le Fils nous donnerait ensuite. Non, Dieu est grâce. C'est le cœur de son être, de sa personne. Et Paul souligne que cela est gratuit. Oh, c'est un petit peu une répétition. Si c'est par grâce, pourquoi est-ce que Paul précise que c'est gratuit? Mais c'est pour souligner cette nature incroyable, merveilleuse de cette grâce. Dieu a envoyé son Fils pour être mon sauveur, pour être le substitut, pour être la victime propitiatoire. Et cela est donné gratuitement. Pour beaucoup d'entre nous, on a reçu une certaine éducation et on nous a appris que quand on nous donnait quelque chose, on devait se sentir un peu obligé de donner quelque chose en retour. Mais pour ce qui est du salut, de la justification, on ne peut rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on puisse apporter. Dieu nous donne tout en Christ. On ne peut pas payer. Tout l'or et tout l'argent de ce monde ne suffisent pas pour payer le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour nous à la croix. On ne peut rien payer. Le salut nous est donné gratuitement. Encore une fois, il y a cette objection. Certaines personnes vont dire, si cela est gratuit, alors on va certainement penser qu'on peut vivre n'importe comment. Mais cette objection, et nous allons le voir plus tard, montre que ceux qui affirment cela n'ont pas compris l'Évangile, n'ont pas fait l'expérience de cette puissance transformatrice du salut que l'on reçoit gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Quand on reçoit ce don, on comprend que cela, si cela est gratuit pour nous, cela a coûté un prix immense au Seigneur Jésus-Christ. Paul dit au verset 24 et 25 qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang qui croit, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire. Ce don du salut qui est absolument gratuit pour moi a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. Un prix immense. Il a donné sa vie, il s'est abaissé, il est devenu serviteur, il s'est fait homme, il a pris sur lui notre nature humaine, lui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Et il est venu apprendre l'obéissance, obéir à son Père, mais aller jusqu'à la croix comme victime propitiatoire pour souffrir, pour mourir, donner sa vie en rançon pour son peuple. Plus nous prenons conscience de la gratuité de ce don, mais aussi du prix immense qui a été payé pour nous, plus notre instinct naturel de chercher quelque chose en moi va disparaître, va être étouffé. La justification est sans la loi. La justification est un don gratuit. La troisième chose, c'est que la justification est en accord avec la justice divine. Paul le souligne au verset 25. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Comment a-t-il montré sa justice? Il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. De quoi est-ce que Paul parle ici? Il parle ici de la période de l'Ancien Testament, de ce système sacrificiel dans l'Ancien Testament. Et il parle de ce qu'attendaient les croyants dans l'Ancien Testament, qui voyaient ces sacrifices, qui voyaient ces sangs des animaux qui coulaient, et qui, par la répétition de ces sacrifices, savaient que ces sacrifices étaient imparfaits, qu'ils ne pouvaient pas ôter les péchés. Ces sacrifices ne sont pas assez grands et ne sont pas assez humains. Et pendant tout ce temps-là, Dieu regardait à l'accomplissement. Il regardait à la réalité dont ces sacrifices n'étaient que les ombres. Il regardait à la croix. Il regardait à ce lieu, à ce moment où il allait juger ses péchés en déversant sa colère sur son propre Fils. Il regardait ce moment où le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, allait être ce substitut. ce sacrifice parfait. Dieu ne fermait pas l'œil sur les péchés dans l'Ancien Testament. Non, il demandait aux croyants de l'Ancien Testament de venir d'offrir les sacrifices d'animaux, mais de réaliser que ces sacrifices n'étaient que des ombres d'une réalité bien plus grande. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. Et là, le Seigneur devient cette victime propitiatoire. Et ce n'est plus un homme qui pose les mains sur un agneau, c'est Dieu qui vient déposer nos péchés sur son Fils, l'agneau. Et il déverse ensuite sa colère. Il punit ses péchés afin que nous soyons délivrés. Il n'y a pas d'animosité entre le Père et le Fils. Loin de là, le Père n'a jamais cessé d'aimer le Fils. Il l'a aimé même alors que le Fils était sur la croix. Mais le Fils est allé jusqu'à la croix pour prendre sur lui, porter sur lui nos péchés, subir la condamnation, subir le jugement, subir la colère de Dieu. Afin de montrer que Dieu est à la fois juste, il punit le péché, mais il est aussi un Dieu qui est plein de grâce, qui pardonne au pécheur qui vient à Christ dans la repentance et la foi. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est plus grande que mes péchés. Quand on chante ce cantique « Amazing Grace », quand on chante un autre cantique, est-ce que nous sommes réellement étonnés, émerveillés? Est-ce que nous avons saisi, compris, commencé à comprendre le côté incroyable de cette grâce de Dieu en Jésus-Christ? Nous avons besoin de voir cette grâce incroyable. Nous avons besoin de vivre toujours plus dans cette grâce. Sans elle, ce que nous dirons sera « Oui, je suis chrétien et il y a tant d'années que je te sers et jamais tu n'as organisé une fête pour moi. » Non, nous avons besoin de grâce, une grâce infinie. Est-ce que nous venons à Dieu en disant « Voilà, j'ai fait ceci, voilà, je suis arrivé à tel point dans ma vie spirituelle, est-ce qu'on peut trouver un arrangement ?» Non. Tout ce qu'on peut dire, c'est « Seigneur, même avec ton aide, j'ai souvent failli. Je ne pourrai jamais apporter quelque chose pour me rendre acceptable. » Et le Seigneur nous dira simplement, c'est tout par grâce. Tout est par grâce. Le salut, cette justification, cette déclaration devant Dieu d'être non coupable, elle est par grâce. Que Dieu nous aide à comprendre cela, qu'il nous aide à voir toujours plus la nature incroyable, la nature merveilleuse, que nous soyons émerveillés devant cette grâce en Jésus-Christ, et qu'il nous aide à vivre dans cette grâce pour sa seule gloire. Amen.